Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Anne, elle démarre son parcours professionnel en tant qu'infirmière. Attirée par le soin au départ, elle découvre que finalement, ce n'est pas que le soin du corps qui l'attire, mais celui des mots au sens large. Elle décide alors de compléter sa formation initiale par un diplôme d'éducatrice spécialisée. Elle dédie sa carrière aux grands exclus et nous permet, dans ce 10e épisode, de revenir sur sa philosophie, ce qu'elle essaie de transmettre, ses expériences, mais aussi une ébauche d'analyse de certaines problématiques. Je lui adresse un grand merci d'avoir soutenu ce projet dès son départ, en nous livrant son témoignage en toute simplicité. Belle écoute à vous. Bonjour Anne, et merci d'avoir accepté mon invitation sur La Voix des Invisibles. Je suis très honorée de pouvoir vous interroger aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole, vous présenter, nous dire quelle est votre formation initiale et depuis quand vous œuvrez dans le social.
Bonjour Camille. Alors, je travaille dans le social depuis de nombreuses années. En fait, après le baccalauréat, en 81, je suis rentrée à l'école infirmière. D'accord. Avec une envie d'être infirmière qui s'est un peu déconstruite au fur et à mesure de mes 3 années de formation qui pourtant ont été très riches et intéressantes. J'ai travaillé un petit peu comme infirmière ensuite en service hospitalier dans un grand centre hospitalier universitaire en région parisienne. Et je sentais que je ne resterais pas très longtemps comme infirmière.
C'est vrai. Pourquoi du coup vous aviez un peu ce décalage, vous ressentiez en tout cas un décalage?
Oui, je ressentais un décalage entre ce que j'avais appris, l'intention de prendre du temps, d'être en relation avec chacun des patients. Et puis aussi je me suis rendu compte que j'étais pas très à l'aise avec le soin physique.
D'accord.
Et que j'étais plus à l'aise avec la rencontre avec les personnes, leur famille. Et puis peut-être que j'avais aussi un peu de mal avec le système hospitalier et la lourdeur de la hiérarchie.
Voilà. Ok, d'accord. Donc une fois ce constat fait, qu'est-ce que vous décidez de faire ?
Alors, les circonstances sont toujours opportunes. En fait, en région parisienne, un groupe d'amis travaillait à la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Okay. C'était dans les années 83, 84, 85 et ce projet m'intéressait. Il venait d'une petite équipe de banlieue parisienne. La discussion avec l'État, la DAS à l'époque était assez facile et puis quand le centre a pu ouvrir, je venais de prendre un poste, je savais, de 4 mois comme infirmière en entreprise qui m'a beaucoup plu à Pantin. Je me suis décidée à postuler. Le choix du conseil d'administration de ce CHRS et puis de l'association qui venait de naître était d'avoir une équipe plurielle avec les formations différentes. J'ai postulé, j'ai été prise et j'ai travaillé pendant 7 ans dans ce CHRS qui était un centre d'hébergement pour tout public. Hein. Et j'ai été...
En tant qu'infirmière du coup ?
Alors, mais faisant fonction d'éducatrice.
D'accord, voilà. Avec un diplôme d'infirmière.
Avec un diplôme d'infirmière.
Sur des missions
éducatives.
Éducatives.
En fait, l'équipe était composée d'éducateurs spécialisés, d'assistants de service social, d'infirmiers psy, d'infirmiers, réunis par ce projet et cette ouverture sur un CHRS qui accueillait aussi bien des familles que des personnes seules, d'une manière assez familiale. La construction de l'internat s'est vraiment faite autour de la notion de site, de maison. Et j'ai pu faire la formation donc, d'éducatrice spécialisée en congé individuel de formation grâce...
D'accord. Voilà. Vous avez décidé de repartir en formation, donc, du
repartir
coup,
en formation.
À l'école, pas sur une VAE,
non,
des acquis par l'expérience, mais ok, vous êtes retournée à l'école. Et là, du coup, quand vous retournez à l'école, quel est votre ressenti? Est-ce que vous vous sentez moins en décalage? Enfin, j'imagine que vous aviez déjà fait l'expérience d'un poste éducatif, mais du coup, pendant vos trois années d'études, est-ce que ça vient répondre à vos attentes professionnelles, du coup?
Ça vient répondre en partie à mes attentes professionnelles et puis la rencontre avec des étudiants, des formateurs sur des intérêts communs. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ma formation d'infirmière m'était très utile et qu'elle m'avait permis d'acquérir aussi des outils de travail que je ne trouvais pas et que je n'ai pas forcément trouvé dans ma formation d'éduc. Donc, le mixte des deux était plutôt...
C'est plutôt complet, effectivement.
C'était plutôt bien, oui.
Effectivement.
Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, mon choix d'infirmière n'était pas si éloigné de ça, de mes projets, puisqu'en fait, je crois que la question de la clinique m'a toujours... intéressée et que j'ai retrouvé le même mouvement dans le métier d'éducatrice sur les symptômes que pouvaient exprimer les personnes.
Effectivement, voilà. Ok. Quand vous sortez diplômée du coup de l'école, vous retournez travailler sur le CHRS sur
Paris,
lequel vous aviez commencé.
Et puis je reviens après à Dijon et là je reprends un poste d'infirmière.
C'est d'accord. Ok, voilà. C'était quel genre de poste du coup d'infirmière c'était...
Alors dans un centre de santé où, qui était prévu pour des personnes en grande précarité, donc j'étais pas très éloignée de ma formation d'éducatrice. J'ai allié je pense les deux sur un temps donné et ensuite j'ai travaillé dans un CHRS et j'ai quitté donc le poste d'infirmière.
D'accord. Oui, donc vous êtes toujours restée sur des publics en exclusion ou grande exclusion, précarité assez importante, etc. Ok.
Oui, je ne connais que ce domaine-là et je ne peux parler que de ce domaine-là. Voilà, j'ai des ébauches de regard sur, par exemple, le secteur de la protection de l'enfance, parce que les personnes qu'on accueille sur des CHRS sont souvent des personnes qui ont eu un parcours dans des établissements.
Oui. Ou peut-être aussi un peu le handicap, parce que ça fait aussi partie parfois des problématiques qu'on rencontre dans la grande exclusion. Ok, qu'est-ce qui vous anime du coup sur ce public particulièrement pour avoir engagé toute votre carrière du coup sur ce public?
Alors, qu'est-ce qui m'anime? Je pense que c'est la rencontre et puis... alors, c'est peut-être idiot, j'ai jamais eu l'impression vraiment de travailler.
C'est quand on fait ce constat-là, c'est plutôt une chance du coup d'avoir l'impression d'aller au travail sans que ce soit une contrainte.
Voilà, je crois que j'ai toujours été sensible aux mots des personnes et j'ai toujours pensé aussi que pour moi, le métier d'éducatrice, comme celui d'infirmière sûrement, c'était les aider à dépasser ces mots et que peut-être je pouvais y arriver dans la rencontre et dans le lien qu'une équipe, qu'une personne peut avoir avec des personnes en difficulté. Alors, je ne connais pas du tout le champ du handicap, mais voilà, les personnes en précarité qui mobilisent de l'hébergement d'urgence ou qui sont accueillies en centre d'hébergement et d'insertion, c'est des personnes qui souffrent alors pas que de difficultés économiques, mais souvent de difficultés plus anciennes, de solitude, de problématiques qui sont venues s'ajouter pour moi à un départ dans leur vie qui était pas suffisamment sécurisé et puis qui les a pas rendus assez solides.
Oui, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, votre philosophie, un petit peu, qui guide votre action, si vous aviez à nous en dire un petit peu plus, ce serait quoi, du coup? Vous avez parlé de la clinique, vous avez parlé du public, est-ce que...
La philosophie, c'est que le métier d'éducateur, il peut paraître très complexe, et en même temps, pour moi, il est assez simple si on prend le temps de comprendre comment agissent les personnes qu'on accueille. Et de prendre ce temps-là, d'accepter que ça fasse écho avec ce qu'on peut en comprendre avec nous, et de se dire que quand on comprend à quoi ça correspond, on peut dans la relation avancer avec la personne et lui faire prendre conscience de ses difficultés et les aider à les dépasser. Voilà, et je pense que je suis très optimiste en plus, et que je pense qu'à chaque fois, même ce qui paraît le plus difficile peut à un moment se réparer un peu, s'apaiser et s'améliorer. Voilà.
C'est vrai.
Oui. Oui.
Il faut effectivement, quand on œuvre avec des publics qui sont les plus exclus, on va dire, si nous on n'est pas un petit peu optimiste pour eux,
oui.
Du coup les situations sont complètement au ralenti.
Oui.
D'accord. Qu'est-ce que vous essayez du coup de transmettre un petit peu à vos équipes, parce qu'aujourd'hui vous êtes un autre poste, plus celui d'éducatrice. Du coup vous avez la lourde tâche entre guillemets de devoir transmettre un petit peu à vos équipes. Qu'est-ce que vous essayez du coup de...
Alors, ce que j'essaye de transmettre, c'est de... Alors déjà, de jamais dire « Ah non, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas, ou il pourra pas. » Ça, je suis plus directement en réunion de cadre à animer une équipe, mais c'était quelque chose où je disais, quand je rentrais en réunion, je veux pas l'entendre. Voilà, il n'y arrivera pas, ou c'est pas possible. Et puis, d'être... voilà, de prendre du temps pour chercher comment on peut... prendre une situation, alors soit un acte de violence, soit des alcoolisations importantes, de trouver le levier qui va nous permettre de rentrer en relation et de détricoter un peu ce qui vient de se passer. Et puis de pas, pour moi ce qui est important, c'est de pas penser qu'on peut faire tout seul, parce qu'on enferme l'autre dans notre relation. C'est assez ça peut être séduisant au départ de penser que on va tout faire et tout va être possible. Très souvent, on n'y arrive pas. Il y a un moment où ça se casse la figure et on remet un petit peu la personne avec qui on travaille dans un phénomène de rupture et à nouveau d'un peu de dépendance. Et je trouve qu'il faut qu'on travaille à plusieurs tout le temps.
Bien sûr.
Et trouver... alors, utiliser la relation concrète pour amener quelqu'un d'autre, pour amener une solution, quelqu'un d'extérieur, un autre membre de l'équipe... une action à faire, enfin voilà, vraiment de...
Voilà. Oui, c'est intéressant, effectivement. Est-ce que vous auriez là, comme ça, une situation un petit peu qui vous a marqué positivement ou négativement, que vous pourriez nous exposer ici pour illustrer un peu votre action, votre travail, alors à n'importe quel niveau de votre carrière, soit en tant qu'infirmière, en tant qu'éducatrice ou en tant que cadre, mais est-ce qu'il y a une situation un petit peu que vous avez menée de A à Z, on va dire, qui vous a un petit peu marqué?
Oui, alors il y a eu des situations à Paris. J'étais très jeune professionnelle, j'avais pas de formation d'éduc, mais voilà, l'équipe dans laquelle je travaillais était assez pleine d'initiatives curieuses, et je suis partie accompagner un jeune qu'on avait accueilli pour un séjour de rupture, dans la France. Alors ça devait être en Corrèze, et je suis partie avec lui en train, et persuadée que ça allait bien se passer. On est resté 2 jours dans la famille d'accueil qui allait proposer ce séjour de rupture. On est parti se balader déjà dans la forêt avec, et puis on a trouvé un petit chat qu'on a ramené, qui est devenu après le chat du CHRS à Paris. Et le jeune homme qui souffrait de toxicomanie, en fait, a refusé de rester et est remonté à Paris avec moi. Et j'avais l'impression que je n'avais pas été au bout de ma mission.
De la mission.
Et on a retravaillé tous les deux sur les raisons de son refus. Lui a pu, à moi, jeune professionnel, pas encore très expérimenté, parler de son parcours, de ce qu'il avait quitté en permanence à chaque fois, de les lieux dans son enfance. Et Voilà, j'ai eu le sentiment que son refus m'a permis de comprendre quel avait été son parcours avant et qu'il en avait marre d'être déplacé d'un endroit à un autre et qu'il fallait peut-être qu'on travaille sur là où il était et comment ça allait se passer. Et en fait, il est resté. Alors à l'époque, en CHRS, les prises en charge étaient 3 mois renouvelables. Ce qui était hyper
court.
Ah
oui, effectivement.
Le RMI n'existait pas, donc les gens en plus devaient... Oui. Voilà, aller vers de l'emploi et il a dû rester 1 an en demandant des prises en charge et on a réussi à démarrer un parcours de soins qui a été assez positif. Et puis je crois que j'ai souvent cette expérience-là en tête en me disant que je partais pour le déposer quelque part, je suis rentrée avec lui et je me suis dit qu'il fallait qu'on continue, voilà, et pas tout de suite, et entendre... ce qu'il pouvait me dire, voilà. Ça a été après pour moi assez fondateur, voilà.
Effectivement, c'était vous l'avez pas interprété du coup comme une mise en échec,
oui,
mais plus comme voilà, faut qu'on respecte son rythme,
oui.
et
oui.
Ses envies, ses besoins du moment, et c'est ça après qui guide votre
voilà.
Intervention sur.
Et puis que ce que j'ai compris, c'est qu'en fait le fait d'être déplacé dans un lieu, même un séjour de rupture, même si à un moment c'était quelque chose qui avait été construit avec lui. En fait, c'est ce qu'il vivait depuis très longtemps et qu'il en avait marre d'être déposé. Et que, en fait, ce qu'il vivait relationnellement avec moi et l'équipe était important à ce moment-là et qu'il fallait peut-être qu'on le continue. Voilà. Et qu'on lui permette de se séparer de nous, non pas en le déposant quelque part, mais en l'aidant à avancer sur son chemin à lui, quoi.
C'est intéressant, voilà. Effectivement. C'est des accompagnements de départ qui viennent un peu nous frapper à un moment donné et se dire « Ah ok, ça se passe comme ça,
oui.
Et il faut qu'on fasse comme ça. »
Et puis, c'est bien de savoir aussi que les personnes avec qui on travaille résistent un peu à ce qu'on, à ce qu'on imagine, même si elles sont à un moment partie prenante et puis que, voilà, il y a une résistance, je crois qu'il faut comprendre où la résistance s'inscrit. Et puis... pour moi, ce qui est important, c'est que ça ne provoque pas de rupture dans la relation. Mais plutôt, on va un petit peu plus loin. Bon, voilà, il y a cette position-là. Je ne veux pas rester, je rentre. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Ben, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on se réorganise après?
Oui, effectivement. Et comme vous le dites, c'est bien qu'ils mettent des résistances parce que ça veut dire qu'ils ont encore des envies, encore...
Oui.
Ils arrivent à verbaliser ou en tout cas à faire transmettre un message. Voilà, à ce moment-là, un peu en désaccord et on peut retravailler des choses.
Oui.
Et finalement, c'est un levier à chaque fois.
À chaque fois.
Qui a une interaction, que ce soit positif ou négatif, pour avancer, effectivement.
Pour terminer, ce qui a été aussi important, c'est de me rendre compte dans des espaces de supervision et d'analyse de la pratique, la place qu'on occupe dans la vie de personnes qui n'ont plus grand-chose que nous et quelles précautions on doit prendre pour pas devenir trop et permettre à l'autre d'avancer en s'identifiant de plus en plus à lui plutôt qu'à nous.
Bien
quoi.
Sûr. On peut être un peu la béquille au moment, à l'instant T, mais il faut que la béquille, elle disparaisse au fur et à mesure du chemin, on va dire. Pour vous, l'analyse de la pratique professionnelle, c'est des temps importants, d'ordre général. Vous en avez parlé, là.
Alors, je pense qu'un temps pour réfléchir un peu à soi et à ce qu'on engage est toujours important. Voilà, je pense qu'on fait pas le métier d'éducateur, voire même d'infirmier, comme ça par hasard. Que ça touche des choses, voilà, de l'histoire de chacun. Et je trouve important de le comprendre.
Bien sûr.
Et je trouve très important de comprendre la place qu'on a dans l'accompagnement de personnes. Et comment c'est important aussi de réfléchir à accompagner de manière juste et pas trop violente. Voilà.
Oui, oui, juste, c'est vraiment le terme. Et vous disiez tout à l'heure, c'est en CHRS en tout cas souvent des publics qui sont passés par la protection de l'enfance. Donc insécurisés ou pas suffisamment sécurisés dans leur enfance. Et l'éducateur, en tout cas le travailleur social, peut très vite être un substitut parental. Donc, est-ce que vous... Enfin, j'ai une question qui me vient comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'il y a... Est-ce que c'est mal ou mauvais... Ou est-ce que c'est bien ou mal, en fait, de devenir un substitut parental?
C'est bien. C'est... Je trouve que c'est effectivement... C'est, enfin, j'ai toujours vécu mon travail aussi un peu de cet ordre-là. Alors, j'ai aussi longtemps travaillé en internat, et l'internat représente aussi une maison. Et l'équipe éducative, un peu les parents, ceux qui posent le cadre de cette maison et qui la font vivre. Et oui, heureusement qu'on peut être des substituts parentaux. Et quand je parle de réfléchir, c'est que, ben voilà, comme un parent, on réfléchit à ce qu'on apporte et... on réfléchit où est-ce qu'on a envie d'emmener les personnes. Et voilà, ça me semble très important, et d'où le lien avec l'analyse de la pratique ou des temps de travail possibles sur soi, sur pour rester juste et ne pas faire n'importe quoi de cette mission.
Bien sûr, on est avec des humains au quotidien, donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Vous disiez tout à l'heure que la personne dont vous parlez, dans la situation, avait une problématique addictive dans les CHRS, mais aussi, je pense, un peu dans plein d'autres institutions qui accompagnent des personnes. La question des addictions revient souvent. Comment vous réfléchissez à pouvoir accompagner justement ces addictions? Et je rajouterai aussi aux addictions, parce que c'est très souvent lié à la souffrance psychique des personnes. Comment on fait pour accompagner au mieux ces deux problématiques-là qui sont assez récurrentes sur les publics en exclusion?
Alors, mais je dirais que moi, ce sont des problématiques du lien et du lien de la toute petite enfance. Alors, je ne rentrerai pas dans ma représentation de la problématique alcoolique, que moi je situe vraiment dans un champ plutôt psychanalytique ou psychoclinique, mais je la comprends comme ça, cette problématique, et ça m'a permis de la comprendre et de l'accompagner aussi comme une problématique du lien et du manque, et de permettre en l'accompagnant, cette problématique de permettre aussi à la personne de sortir de ce tout et de peut-être plus parler d'elle et de dire je. Que souvent les personnes qui souffrent d'une problématique d'addiction, elle s'est installée, alors dans le public que je connais, c'est pas une généralité. Mes propos sont pas généraux, mais c'est pour le public que je connais, souvent des consommations qui sont installées tôt, qui ont un sens et puis qui permettent aussi d'exister. Donc, il faut trouver peut-être le moyen d'aider la personne qu'on accompagne peut-être à plus parler d'elle que de l'alcool.
C'est intéressant.
Mais plus de... Et puis, moi, ce qui a été un levier aussi souvent, ça a été de dire que ces alcoolisations, elles me dépassent dans ce que je peux accompagner et aider, et qu'il faut que la personne m'aide à trouver le moyen de l'accompagner. Et quelquefois, de le nommer comme ça, ça permet à l'autre de parler un petit peu plus de lui, ce qui est souvent le but escompté. Et souvent, quand on commence à parler non plus d'alcool, mais de la personne, ou des comportements violents qu'elle a eus, souvent, moi, je dis, mais... Voilà, ces épisodes de violence doivent vous embêter tout autant que moi qui la reçois dans le cadre d'un règlement de fonctionnement. Est-ce que vous sentez à quel moment ça monte et pourquoi? Et souvent, la personne, quand on prend le temps de reprendre ce qui s'est passé ou des alcoolisations, parle d'elle, de son enfance. C'est à nous de faire le lien entre ce qui est dit et d'amener peut-être... ce matériau-là à quelqu'un d'autre qui pourra continuer d'accompagner dans un espace thérapeutique où il faut qu'on accepte aussi d'être, hein, pour que l'autre quelquefois prenne conscience que son fonctionnement est aussi lié à ce qu'il a vécu tout simplement. Mmh. Et que une fois qu'on a un peu déposé ça et qu'on en a fait le constat, bah, peut-être qu'on s'en détache aussi. Parce que ça devient moins, moins survivaliste, par exemple. Hein, on a moins besoin quand... voilà. Les gens sont pris dans leur... Je suis toujours très étonnée comment les personnes qu'on accueille... alors, pas toutes les personnes, hein, mais en hébergement d'urgence, sont prisonnières de leurs émotions, de leur histoire, et n'arrivent pas à passer à autre chose, et je me dis que tant qu'on les a pas aidés à s'y confronter, ben ils passeront pas à autre chose, quoi.
C'est vrai que les publics, alors en hébergement d'urgence et HRS, en tout cas sur la grande exclusion, on a souvent l'impression qu'ils sont sur un mode de survie. Mm. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le produit peut les faire exister dans un espace. C'est vrai, c'est très, enfin voilà, dans un groupe en tout cas. Et ça m'a tout fait penser. J'ai écrit sur ma petite feuille exister et survivre. Le produit leur permet aussi de survivre, et pour faire le lien avec les émotions, ben en tout cas faire taire à un moment donné les émotions qui sont trop violentes. Certainement à gérer. J'imagine que la gestion de violence, vous avez eu à vous y confronter. Comment on gère de la violence de personnes qui finalement sont dépossédées de tout ?
Alors, ce qui est dur à l'hébergement d'urgence, c'est que souvent on est le dernier lieu d'existence. Mmh. Donc si on considère que l'acte violent que la personne va émettre à l'intérieur, auprès d'une autre personne ou de l'équipe éducative, risque de la mettre en danger par rapport à son hébergement. Il faut que quand on travaille en hébergement d'urgence, on ait bien conscience de ça, que la réponse qu'on va faire, elle va peut-être être excluante encore une fois de plus. Donc, je souhaite que les équipes réfléchissent beaucoup sur ce pouvoir qu'ils ont là et sur peut-être mettre à pied pour signifier que l'acte est grave, mais revenir, et ça pour moi c'est très important, c'est retrouver toujours le temps, le moment de reprendre ce qui s'est passé quand la personne revient, et pas d'une façon jugeante, mais en disant voilà, ça te met en difficulté, ça nous met en difficulté, ça vous met en difficulté, ça nous met aussi en difficulté. Comment on peut vous aider à revenir et à ce que voilà, parce que ben ce mode relationnel, il est compliqué pour vous, il est compliqué pour nous, et puis voilà. Alors je trouve que des fois il faut faire attention, parce que quand on a des temps aussi comme ça où on reprend les choses, où ça s'apaise un peu, l'émotion là arrive aussi beaucoup chez les personnes.
Oui. Hein. Il faut savoir la gérer.
Et il faut voilà, avoir réfléchi avant à qu'est-ce qu'on allait mettre en place dans ce qu'on comprend de la personne et de ses agissements, pour après continuer de travailler ce qu'on vient d'ouvrir un peu. Et parce qu'on peut pas se permettre de voir quelqu'un s'effondrer au niveau émotionnel et sans
proposer du
sans
vide,
proposer,
bien
voilà,
sûr,
et sans proposer impossible. Quelque chose après, quoi.
Évidemment. Ouais. Sur l'hébergement d'urgence, du coup, aujourd'hui, quel public vous accueillez, et est-ce que vous voyez une tendance un petit peu actuelle de public que vous accueillez un peu plus sur des tranches d'âge ou sur des problématiques?
Alors, le public en hébergement d'urgence, personne seule, il est varié, il est riche. Parce que justement il est varié, et que c'est le lieu de l'hébergement d'urgence qui est un collectif pour les personnes seules, est assez vivant, assez vif. Y a des personnes qui sont là parce qu'elles viennent d'autres pays, donc leurs difficultés sont pas du tout les mêmes que celles d'un jeune qui a passé 12 à 15 ans dans des établissements protection de l'enfance, ou d'un monsieur abîmé par un parcours de rue et qui consomme beaucoup, de personnes plus âgées qui arrivent et qui, soit dans un parcours d'errance, soit ont dû quitter suite à une expulsion, un logement, des personnes très isolées qui n'ont pas fait appel avant à des services sociaux. Voilà le public un petit peu de l'hébergement d'urgence. Alors, je dirais que pour 2/3 du public, on travaille à des sorties de l'hébergement d'urgence entre guillemets facile parce que les parcours de vie sont pas ceux que je vous ai décrits auparavant. Et puis il y a ce tiers, voilà, un petit peu aujourd'hui, qui est présent, qui reste plus longtemps, qui n'a que cet espace-là de vie, qui présente, voilà, un isolement, enfin je dirais, présent depuis longtemps, lié au parcours qu'on a décrit, et des problématiques qui se sont associées. Addiction, troubles du comportement, mais je pense lié aussi à ce qui a été vécu. Et c'est avec ces personnes-là qu'il faut le plus travailler, et avec lesquelles c'est peut-être le plus complexe d'entrer en relation et de rentrer en relation de manière aidante. Voilà.
La personne que j'ai interrogée pour l'épisode numéro 1 disait que l'isolement rend fou. Et vous parlez effectivement d'isolement. Les publics que vous accueillez sur l'hébergement d'urgence, finalement, elles ont toute cette problématique commune, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus faire appel à un environnement extérieur,
familial, des
ressources familiales.
Oui.
Okay.
Oui.
Est-ce que, du coup, pour avoir ce regard-là sur les approches des problématiques de souffrance psy ou d'addiction, vous avez fait des formations supplémentaires pendant votre pratique?
Oui. Alors, j'ai travaillé dans une structure qui avait pour spécificité d'accueillir des personnes souffrant de problématiques d'addiction. Donc, j'ai pu bénéficier de formations. À l'époque, de formation, je me rappelle, en 3 années, avec qui était assez rude, mais intéressante, où la question du produit nous était posée à nous en tant qu'individus. Et puis... moi aussi, ce qui m'a permis de confronter un peu ce que j'avais en tête et ce que je ressentais, c'était de faire une formation, un diplôme supérieur en travail social, enfin qui est le DEIS maintenant, où le travail de recherche m'a permis de mettre à plat ce que j'éprouvais, ce que je ressentais, avec aussi une représentation beaucoup plus conceptuelle, hein, sur laquelle je me suis appuyée et qui m'a permis... et je dis souvent ça aux jeunes professionnels, lisez, formez-vous au-delà de ce que vous avez eu en école de formation et faites-vous votre représentation de votre travail à partir de concepts. Alors ça peut être la socio, ça peut être la psychanalyse, ça peut être la psychoclinique, mais n'hésitez pas à vous construire une représentation de votre travail, de l'accompagnement pour vous y référer, pour avoir ce fil aussi qui vous guide dans votre pratique.
Bien sûr, puisque du coup, quand on sort de l'école, on est juste un petit peu construit, on a quelques bases, mais on s'est pas encore vraiment confronté au public sur du long terme ou en tout cas sur des accompagnements sans filet. Moi, je dis souvent ça aux étudiants, là, vous avez un filet, profitez-en. Donc, pour lire effectivement et vous renseigner sur les problématiques, parce que ça insécurise un petit peu de pas assez en savoir sur les problématiques et de se cantonner un peu à ce qu'on entend sur des réunions ou de l'analyse de la pratique, justement.
Puis c'est important de se construire sa représentation du monde, de l'autre, de la relation. Et ça permet aussi d'avancer en étant un peu plus rassurant, je pense aussi pour l'autre qu'on accueille et qu'on accompagne. Il sent qu'on est un peu solide. Donc...
complètement. Et cette solidité, c'est ce dont ils ont besoin, la permanence du lien et toujours la solidité, effectivement.
Soyons des parents solides.
Ouais, c'est ça, ceux qu'ils n'ont pas forcément pu avoir. Avec votre poste actuel, vous avez une dimension territoriale, du coup, un rayonnement territorial. J'aime bien poser cette question aux personnes qui naviguent entre un territoire urbain et un territoire rural. Est-ce que vous voyez des différences entre les deux territoires? Si oui, pour vous, quelles sont ces différences? Et comment on essaie un petit peu de gommer, enfin, en tout cas, comment on travaille à gommer un petit peu ces différences pour que les personnes aient accès au même dispositif, aux mêmes choses. Enfin, voilà, comment vous pouvez travailler à ça?
Alors, moi, ce dont je me suis rendu compte en sortant de Dijon et de l'agglo pour aller travailler sur l'ensemble du département, c'est que en territoire rural, les gens sont attachés à leur campagne, à leur espace, à leur territoire. et que c'est important de tenter de, voilà, de respecter. Et
ben là, il voilà. faudrait pas les déplacer comme effectivement.
Oui, alors peut-être les déplacer, mais ça c'est toujours le même. C'est toujours le même. Pour moi, ça procède toujours du même accompagnement. Si on pense qu'à un moment, pour un jeune, quitter son territoire pour pouvoir bénéficier d'une structure qui sera adaptée à ce dont il a besoin, et c'est sur Dijon, je pense que c'est possible quand on lui permet d'y aller et qu'on est toujours là pour le faire revenir. Et alors, on est toujours là, c'est-à-dire qu'on a le souci. Quand on travaille dans une structure, moi, je reviens sur la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qu'on dit aux équipes, comment on amène, je dis, mais voilà, pensez les gens avec avant, pendant et après. Ils ne sont pas suffisamment armés pour le projeter tout seul. Voilà, pensez avant, pensez ce que vous faites pendant, mais pensez aussi après. Et quand on est convaincu que quelqu'un va bénéficier d'une structure et que ça sera pour lui réparateur, important, on peut l'y accompagner. Et on peut aussi l'accompagner pour le faire revenir. Hein. Et ça marche quand on explique aux gens qu'on sera là pour les accompagner, les installer. Quelqu'un qui part en soin pour une cure, la cure, elle marche si on a pensé que rentrer, quand on n'a pas de maison, pas de voilà, ça allait être compliqué, bah, quand on a pensé au retour
de la cure.
Hein, au retour de la cure, et que on a pensé pour la personne, alors des choses des fois toutes bêtes, mais elle part en cure, il y a son RSA. Comment on va faire pour que... parce que c'est toutes ces choses-là qui vont angoisser pour le public qu'on connaît. Et voilà, donc je pense que quand on est convaincu du bien qui peut arriver pour quelqu'un, et je reviens aussi à une question que vous m'aviez posée dans les expériences, un jour une dame m'a dit « mais tu y crois tellement pour moi que ça m'y fait croire aussi ».
Donc, ça, c'est la meilleure gratification voilà. qu'on peut recevoir, effectivement.
Voilà, donc je ne l'emmenais pas au sommet de l'Everest, mais sur un départ en cure à l'époque, et en lui disant que ça serait possible, et puis que si ça ne fonctionnait pas, ben, on continuerait après.
Hein, bien sûr, parce que c'est sécurisant de dire, voilà. C'est pas, enfin, faut pas le vivre comme un échec si aujourd'hui tu y arrives pas, et je suis là sur la suite pour voilà. travailler autre
Mais,
chose.
Et c'est là où je dis que c'est important et pas être tout puissant. Si c'est pas moi, j'aurais pensé qu'il y ait quelque chose. Hein? Si c'est pas moi, voilà. Mais j'ai pensé à la suite pour toi, et quelqu'un d'autre pensera. Hein, où tu ne seras pas seule. Si tu pars à Dijon et que tu habites à 100 km de là, bien, je vais faire en sorte que ce 100 km de là continue d'exister, même si tu en es loin. Mm-hmm. Et que si à l'issue de ce que tu as travaillé ben, sur Dijon, c'est ton choix de retourner, ben, il faut qu'on puisse continuer de t'y accompagner.
Bien voilà. sûr. On se disait tout à l'heure que l'isolement était une des problématiques qu'on rencontrait le plus. Si effectivement les personnes, on les déplace sans penser à ce que vous dites, à l'après, les peu de liens d'attachement qu'ils ont, mais peut-être pas forcément familiaux ou amicaux, mais des fois d'un territoire, parce qu'ils ont des connaissances, des repères, ça les met en échec, ça les met en difficulté directement. Ouais. J'aime bien aussi poser cette question. Si vous aviez un avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, des modifications, qu'elles soient positives ou négatives, est-ce que vous avez un retour un petit peu sur l'avant et l'après, ou enfin l'avant et le maintenant, on va dire.
L'avant. Alors moi, ce que j'ai, ce qui m'a permis vraiment de construire ma pratique, c'est travailler en internat. Et je crois qu'heureusement, dès le début, j'ai pu bénéficier de cet apprentissage-là parce que j'ai compris la symbolique de l'internat, voilà, de la maison, du substitut parental. Et ça a aussi beaucoup aidé ma pratique après, la notion du collectif, du groupe, de l'individu. Et aujourd'hui, dans le travail social, c'est par exemple... Alors, on entend beaucoup la politique du logement d'abord pour le plus de personnes. Oui. Je ne suis pas sûre que ça soit pour tout le monde.
Expliquer un peu ce que c'est le logement d'abord pour ceux qui sont extérieurs à,
notre
travail social, au jargon du travail.
Au jargon. En fait, on a beaucoup créé de places d'hébergement, déjà des places d'hébergement d'urgence pour la première réponse, et puis après, on a créé d'autres places d'hébergement qui sont les foyers, les centres d'hébergement pour adultes. Et depuis une dizaine d'années, l'idée est que plutôt que de passer par ces places d'hébergement, ces structures, ça serait plutôt de permettre à chacun, dès qu'il a des droits, d'aller directement sur du logement et de mettre après en place tous les accompagnements nécessaires à ce qu'on a compris de sa situation et de ses besoins. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de vivre en se sentant entourées, et que l'idée de la politique du logement d'abord, elle correspond à un grand nombre, et vraiment tant mieux, très très bien, mais peut-être pas à tous. Et que voilà, je suis toujours dans mon travail où la régulation des places sur les places existantes à l'échelle d'un territoire, de regarder aussi, parce qu'elles sont rarement nommées, les places en communauté Emmaüs qui existent et qui représentent effectivement ce que le logement d'abord ne permet pas, c'est-à-dire vivre en communauté avec d'autres personnes et de manière durable.
Complètement. Voilà. Oui, effectivement. On se fait effectivement un peu happer par cette politique du logement d'abord, où on gomme des discriminations et des inégalités. C'est évident de se dire qu'il y a certains publics qui ne peuvent pas être en logement. Non, c'est faux. Certains peuvent être, mais d'autres ne sont aujourd'hui et peut-être jamais
prêts.
Seront jamais prêts à vivre seuls en logement parce que ça demande de faire un énorme travail, en tout cas avoir une capacité de résilience, je pense, sur vivre isolé. En fait, ça renvoie un petit peu à l'isolement connu.
Et puis, voilà, les personnes qu'on accompagne, quand on a en tête cette problématique du lien qui existe depuis longtemps, si toutefois elles s'épanouissent pour elles le mieux possible dans un espace communautaire, il faut vraiment le privilégier.
Il faut le soutenir. D'accord.
Il faut le soutenir.
Exactement. Merci. On va passer du coup aux trois questions de la fin. Les trois questions que je pose toujours aux invités. Donc la première, c'est on entend souvent parler de la baguette magique qu'on n'a pas. Si vous l'aviez, qu'est-ce que vous changeriez ?
Mais moi, je crois que la baguette, on l'a.
C'est drôle.
Je crois que la baguette, on l'a, quoi. Il faut prendre conscience du pouvoir d'agir qu'on a, et qui est important. Voilà. La baguette, c'est pour, peut-être reconstruire des locaux qui soient plus acceptables. Voilà, plus dans les locaux, mais la baguette magique pour... voilà, on l'a dans les mains, mais il faut qu'on sache l'utiliser.
D'accord, merci pour cette réponse très optimiste, du coup, toujours. Si vous aviez envie de faire autre chose professionnellement, ce serait quoi ?
Je me suis dit que je ne saurais jamais faire autre chose que ce que j'ai fait, ou alors être dehors. Voilà, peut-être, peut-être que enfant, j'aurais aimé enfant être fermière, agricultrice. Okay. Peut-être que c'est ça qui.
En tout cas, oui, voilà. Un travail plus sur l'extérieur,
oui, plus sur l'extérieur,
manuel aussi.
Manuel.
Ok. Alors, l'invité précédent vous a posé une question. Donc, sa question, c'est comment améliorer la communication dans le social afin de permettre aux personnes qui sont vraiment dans le besoin de pouvoir bénéficier de toutes les aides mises en place ou disponibles. Sa réflexion, c'était de se dire que on communiquait pas assez sur ce qui existait dans le social et que finalement, il y avait une frange de la population qui n'avait pas accès, qui avait un défaut d'information, en tout cas, sur ce qui existait dans le social. On a pu se dire qu'effectivement, on voyait très peu de panneaux publicitaires solitaire dans la rue en disant t'as 25 ans, t'es en difficulté, le RSA ça existe. Voilà, comme une affiche qui pourrait promouvoir un produit. Bon, bah voilà, on fait pas de promotion sur les aides sociales. Voilà, donc lui il se demandait comment on pourrait améliorer cette communication-là.
Alors aujourd'hui, je trouve que moi j'ai la chance de travailler dans un secteur où les articulations des partenaires entre eux existent, où les temps de rencontre existent de manière régulière et permettent de plus en plus de communication et d'intercommunication entre les secteurs du travail social entre eux. Et ce qui permettrait aussi une meilleure communication, c'est peut-être que dans les autres secteurs que celui que je connais, l'organisation des parcours soit beaucoup plus équitable que en lien directement avec la vie de chaque établissement ou de chaque structure. C'est peut-être un peu complexe ce que je dis, enfin pas abstrait, mais pouvoir travailler tous ensemble sur chaque situation de famille ou de personnes en rupture d'hébergement et penser avec elles quelle sera la solution à moyen et long terme la plus adaptée, ça gomme un peu la question de l'établissement qui va recevoir. On travaille plutôt sur la trajectoire qui est le plus adaptée à quelqu'un et peut-être que dans d'autres secteurs, cette logique-là n'est pas encore présente, ce qui fait que les établissements, les structures, les dispositifs sont beaucoup plus cloisonné et dans un fonctionnement moins interdépendant et lié au parcours de la personne dans ces établissements-là.
Et bien sûr, ouais. Donc ça pourrait aider justement si ce genre d'instance existait dans tous les secteurs. Ça permettrait du coup une communication plus fluide de effectivement, telle institution peut recevoir, ça existe, voilà. Mais c'est pas forcément du coup interne à l'institution, c'est non. Ouvert sur...
C'est un outil.
Ouais, c'est ça, l'institution est un outil.
Est un outil dans le parcours d'une personne.
Ok, merci en tout cas pour cette réponse. Je vous laisse du coup poser votre question à l'invité prochain.
Alors, je sais pas si c'est une question attendue, mais qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail ?
C'est intéressant. Je pense qu'effectivement, on se pose peu la question de ce qui nous passionne, le côté vraiment... Ok, bah écoutez, je lui poserai. Je vous remercie, Anne, pour votre temps et cet échange.
Merci, au revoir. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.